J'avais à cœur cela tout à l'heure dans la prière. Je pense vraiment que quand nous nous réunissons, le Seigneur regarde si nous sommes unis, ce que nous pensons les uns des autres. Souvent, nous venons apporter peut-être individuellement notre culte et nous ajoutons des individualités. Et de plus en plus, parce que notre société est individuelle. Mais normalement, le culte est communautaire. Et en fait, ce qui compte, c'est de l'apporter, ce culte, ensemble, dans des liens d'unité réelle. Et c'est ce qui donne de la valeur à notre rassemblement aussi. Alors, nous avons certainement besoin de progresser dans ce domaine-là. Hier, en face de mon lotissement, j'ai entendu des cris. Ça hurlait. Il y avait deux personnes qui s'invectivaient et ça attirait l'attention. Et à la fin, ça s'est terminé. Il y avait une personne qui était là, une famille, de la famille d'un de mes voisins. Et il me disait, qu'est-ce que les gens sont agressifs aujourd'hui? Et je trouve que c'est vrai. Il y a beaucoup d'agressivité, de violence, de dureté. Au temps de Noé, la violence remplissait la terre. Et Jésus a dit que quand il reviendra, les temps de son retour ressembleront au temps de Noé. Et il me semble qu'il y a un crescendo dans la violence. C'est un des signes de la venue du Seigneur. Alors le thème sur lequel j'aimerais que nous méditions en lisant pas mal de passages sur ce sujet-là, c'est celui de la douceur. De la douceur. Dans un monde violent, dans un monde agressif, nous sommes, nous chrétiens, appelés à la douceur. Rien que ce sujet-là, je pense on ne l'entend que dans l'Église. Autour de nous, rares sont les gens qui disent « Ah, ce serait bien qu'on soit doux. » Ce serait bon que dans nos relations professionnelles, nous soyons bienveillants, gentils les uns envers les autres. La gentillesse est souvent confondue avec de la faiblesse. Et on a même l'impression que, en fait, l'idée ici, c'est de se dire « Si tu es gentil, on va marcher sur toi, donc montre tout de suite les dents. Comme ça, tu ne te feras pas avoir. » Ça, c'est un raisonnement du monde. Ce n'est pas un raisonnement de l'Écriture. Alors, on va d'abord lire dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 18, ce passage qui parle de la douceur, de la sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques 3, 13. Quel que soit notre caractère, on peut être doux. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question de fruit de l'esprit. Alors, Jacques chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Donc, les questions de la douceur, de la sagesse. La douceur fait partie de la sagesse de la Bible. La sagesse de la Bible n'est pas la sagesse des Grecs ou la sagesse de ce monde. Paul l'expliquera aux Corinthiens. C'est une sagesse différente, c'est une sagesse de Dieu. Dans cette sagesse de Dieu, il y a la douceur. À l'opposé, il est question d'amertume. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a de la douceur dans ce passage, mais il y a aussi de l'amertume, qui est le contraire de la douceur. C'est au verset 14, un zèle amer. Douceur et amertume. Celui qui est dans la sagesse de Dieu sera dans la douceur. Qu'est-ce que c'est que le zèle amer ? C'est un zèle, c'est une motivation polluée par des mauvais sentiments, tels que la rivalité, la jalousie, le désir d'être premier, de passer devant les autres. C'est le zèle amer. D'accord ? Il y a la douceur de la sagesse et le zèle amer. On peut le rencontrer dans le monde du travail. Certaines personnes ont ce zèle amer parce qu'ils sont ambitieux et carriéristes. Ils auront beaucoup de zèle pour leur travail, mais en fait, ils se servent eux-mêmes. Ils le font pour eux-mêmes. Et en général, ces gens-là ne sont pas forcément doux avec les autres. Douceur de la sagesse ou zèle amer. On va lire dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc 10, verset 38. On lira pas mal de passages ensemble. Il est dit ceci, Luc 10, 38. Je vous laisse le temps de trouver pour vous qui regardez dans la parole, même si c'est affiché. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Donc ici, il y a la brutalité des actifs. Marthe est très active, mais en fait, elle s'énerve contre sa sœur. Elle dit, mais moi je fais, elle ne fait pas. Elle n'est pas douce dans son service. Elle se compare et elle est dans le reproche. La douceur, c'est aussi dans ce que nous faisons. Dans l'Église, si vous faites et si vous servez pour le Seigneur, n'en veuillez pas à ceux et celles qui peut-être ne font pas comme vous. Et puis, je crois qu'il faut faire attention dans notre vie. Il y a certainement un moment pour être actif, mais il y a aussi un moment pour être contemplatif. Elle écoutait le Seigneur. Et être toujours dans l'activisme n'est pas forcément une bonne chose parce que ça peut justement nous emballer dans la vie et nous donner d'avoir un train de vie plus énervé que doux. Ici, en tout cas, Marthe faisait le bien, mais elle a manqué de douceur dans ce qu'elle faisait. Et ça, ça nous fait réfléchir, parce que ce à quoi Dieu regarde, ce n'est pas avant tout à ce que nous faisons, mais c'est aux dispositions dans lesquelles nous faisons. Et il est bon de servir, mais avec douceur de cœur. Parce que la douceur n'est pas qu'une attitude, la douceur c'est avant tout une disposition de cœur qui se retranscrit. Si nous sommes doux de conduite, mais pas dans le cœur, c'est de l'hypocrisie. La vraie douceur vient de l'intérieur. Alors, on peut parler de la douceur de la présence de Dieu. Dans 1 Roi 19, verset 12, peut-être qu'il pourrait être affiché sans que moi j'aille le chercher, parce que vous connaissez bien ce passage. C'est quand Élie est découragé et est en difficulté. Il est fortifié par un ange, il marche longtemps dans le désert et se rend à la montagne de Dieu. Il a besoin que Dieu lui parle, il a besoin d'être fortifié dans ce moment difficile. Et la Bible dit que Dieu, quand il s'est révélé à Élie, n'était pas dans le feu, n'était pas dans le tremblement de terre, mais il était dans un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. La présence de Dieu est douce. Elle n'est pas forcément tonitruante. La présence de Dieu, lorsque nous prions à la maison, peut nous apporter une douceur vitale pour nos journées. Quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes comme Élie dans des moments difficiles, qu'il est bon d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte et de se retrouver avec notre Père dans le secret. et de connaître la douceur de sa présence. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de douceur. Dans le monde, les gens en sont conscients au point que se multiplient diverses méthodes, dont le yoga, la sophrologie, toutes sortes de choses en dehors de Dieu. On parle des vertus de la respiration. Et scientifiquement, c'est vrai que c'est prouvé que de gérer sa respiration peut aider à se calmer. Mais tout ça, ce sont des techniques humaines qui ne nous apporteront pas la douceur de la présence de Dieu. Ce dont nous avons besoin pour être doux, c'est d'abord de vivre la douceur de la présence de Dieu. Amen. Dans notre maison. De rencontrer le Seigneur pour goûter à cette douceur céleste et incomparable. J'ai travaillé en usine pendant des années, c'était très bruyant, assourdissant. Alors, il y a l'usine, mais je pense que dans vos contextes de vie, il y a beaucoup de bruit, de paroles, toutes sortes de choses. Et combien nous avons besoin de ce calme, de la présence de Dieu, de nous retrouver pour nous ressourcer avec le Seigneur. Le psaume 133, que nous connaissons bien, on peut le lire, nous parle de la douceur de la communion fraternelle. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble ou d'habiter ensemble. J'ai découvert cette semaine qu'il y a une sorte d'église qui pratique leur réunion de semaine un peu à la ressemblance des premiers chrétiens. Ils font la réunion en semaine et ils la terminent systématiquement en mangeant ensemble le soir. La Sainte Cène. Cène, c'est le dîner. Nous, on prend le dimanche matin, mais les premiers chrétiens le prenaient le soir. La Cena, c'était le dîner. D'ailleurs, la première Sainte Cène, si on peut dire comme cela, c'est-à-dire la dernière Pâque que le Seigneur a prise, c'était bien le soir. Et les premiers chrétiens prenaient la Cène le soir, à la fin des repas. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient ensemble. Ils mangeaient ensemble parce que c'était une vie communautaire forte. Alors il est dit, voici qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer, des traditions disent, d'habiter ensemble. La douceur de la communion fraternelle, mais pour cela il faut que l'Église soit unie, comme je le disais au début de mon message. Il est terrible, je constate de plus en plus que parfois dans les assemblées, il n'y a plus cette douceur de la communion fraternelle parce qu'il n'y a plus cette vie de communauté sincère de la première Église. Et je crois que l'un de nos plus grands besoins, c'est de retrouver cette vie communautaire sincère et cette unité. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un secours d'aller dans une assemblée et de s'y sentir bien. C'est quelque chose d'indispensable à la vie chrétienne. Lisons le Proverbe 5, verset 3. Il est question d'une autre douceur, cette fois-ci vraiment dangereuse. La douceur de la femme adultère, de la maîtresse, de son charme. Mais c'est bien d'en parler parce que ça fait partie de la vie. Proverbe 5, verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, Elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Alors ça, c'est une douceur à laquelle il faut se méfier, hein. Vous savez qu'avant, malheureusement, qu'il y ait des drames, des tromperies, des divorces, des drames, il y a souvent d'abord une femme très gentille, un homme très gentil, très doux. Le mot douceur ou doux en grec, utilisé dans le Nouveau Testament, peut aussi vouloir dire gentil. D'ailleurs, il me semble que Sommer traduit systématiquement au lieu de doux par amabilité. Quand il est écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes, Sommer traduit que votre amabilité soit connue de tous. Bon. Là, c'est une douceur dangereuse. C'est la douceur de la chair. C'est la douceur du charme de l'étrangère. Pourquoi est-elle appelée l'étrangère ? Parce que c'est une autre femme que sa femme légitime. C'est une étrangère. Et là, il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Et je nous avertis tous, faisons attention. On a besoin de douceur. Et s'il arrive des moments dans la vie où nous manquons de douceur, je vous assure que le diable mettra sur votre chemin un garçon très gentil, une fille très gentille. Et ne lui dites pas, « Oh, actuellement, avec mon mari, avec ma femme, on ne s'entend pas bien. » Surtout pas. Veillez à cela. Et pourquoi pas plutôt vivre la douceur à la maison. Alléluia. La parole de Dieu met en avant, en insistant, le fait que la douceur est efficace. Parce que nous pensons naturellement plutôt le contraire. Quand on veut que quelqu'un comprenne, on lui crie dessus des fois. Il dit, mais t'as pas encore compris. Alors, on insiste et on pense qu'en mettant la pression, ça va marcher. L'Écriture nous dit plutôt que la douceur est beaucoup plus efficace que la dureté. D'ailleurs, ça nous est souvent arrivé quand on a des collègues qui nous expliquent très vite une chose à faire et que l'on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on n'a pas compris tout et tout de suite, on va être pris pour des balochards. Eh bien, au lieu de nous aider, on perd confiance et on fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Parce que ça manque de douceur. Alors, on va lire Proverbe 16, 21. Proverbe 16, 21. Il me semble que quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui va aussi avoir de la patience. Proverbe 16, 21. Nous aimons que Dieu ait de la patience envers nous. Nous avons plus de difficultés à être patients avec les autres. Proverbe 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est beau ça. La douceur des lèvres augmente le savoir. Expliquer avec douceur. Instruire avec douceur. Discuter avec douceur. Tout cela va permettre une augmentation de la connaissance de l'autre. Hein, la douceur des lèvres, eh bien, fait augmenter l'instruction, la connaissance. Chapitre 25, verset 15. Chapitre 25, verset 15. Alors, par la lenteur à la colère, d'autres traductions disent par la patience, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Alors, je ne le savais pas, Mais il paraît que la densité des eaux, bon, quand il n'y a pas une maladie, mais est plus forte que celle du béton. Et pourtant, ce qui peut briser un os, ce n'est pas qu'on s'acharne dessus, c'est qu'on soit doux avec lui. C'est étrange les images de l'écriture, c'est un peu cocasse. Celui qui est doux va briser les os. Vous savez, avec les gens, des fois, on n'obtiendra rien si on est dur avec eux. Une fois, c'est un frère qui m'a expliqué ce qu'il a fait avec son garçon. C'était un pasteur que je connais, hein, que j'estime bien, qui est dans l'est de la France. Et un jour, son garçon lui dit « Papa, je vais aller à l'armée. J'ai envie d'aller à l'armée. Oh, j'aime bien, moi, ta-ta-ta-ta, la mitraillette. » Bon, ah, vous imaginez la place du papa. Bon, au lieu de lui dire tout de suite « Mais enfin, on tue pas les gens. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu as dans la tête pour aller à l'armée ?» Bon, ben, il lui a dit « Oh, mon fils, mais c'est formidable. Viens, on va promener en forêt. » Et pendant tout le chemin, son fils lui parlait des bazookas, des tanks, des avions, et son père qui jouait le jeu. Et puis ils ont cheminé ensemble, et puis petit à petit, il lui a parlé de certaines choses. Et puis en fait, le frère me disait, bah, ça lui est passé comme ça lui est venu. Hein? Des fois, on s'acharne. Mais au plus, on va dire à notre enfant des fois, ça, il ne faut pas. Ben, c'est embêtant, mais la nature humaine n'est pas très docile. Et des fois, au pire, ça fait. La douceur brise les os. Quand je suis venu à l'Évangile, j'étais rebelle, très rebelle. Mais quand j'ai entendu que Dieu m'aimait, et qu'il avait donné son fils sur la croix pour moi, ça m'a brisé. On n'aurait pas pu me faire plus d'effet, même si on m'avait donné un coup de poing. Dieu, en réponse à ma révolte, avait décidé de m'aimer. Alléluia. Restons dans cette douceur, dans cette réponse de l'amour. Alléluia. Ça sera beaucoup plus efficace. C'est plus facile de s'énerver. C'est naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais par contre, être doux, au bon moment, quand justement c'est le moment de s'énerver, c'est le bon moment d'être doux. Là, il nous faut la grâce de Dieu. La nouvelle nature. Alléluia. Disons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Alors, c'est un passage, là aussi, surprenant, parce que d'abord, ça concerne nos versets premiers, femmes. Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc ce passage concerne un moment où le mari ne croit pas au Seigneur, lui désobéit. Donc là on pourrait dire, bon ben écoute, là, clause d'exception. Ton mari fait fausse route, il est dans les clous, bah écoute, là, tu peux faire comme tu veux, tu peux te révolter et prendre la situation à bras le corps. Bien, pas du tout. Voilà ce que nous pouvons lire au verset 4. dans cette conduite que cette épouse doit avoir, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Un esprit doux et paisible. Cela devrait caractériser la femme chrétienne, puisque le texte, c'est la femme chrétienne. Un esprit doux et paisible. Amen. On parle de l'efficacité de la douceur, vous comprenez? Et ce passage-là, c'est l'efficacité de la douceur, parce que c'est le mari qui est gagné. Vous savez, il n'y a pas que les enfants qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Je pense que, peut-être encore plus, les hommes n'aiment pas du tout qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et il me semble, vous savez, ça nous arrive tous, vous et moi, il y a des moments où on n'écoutera rien. À des moments, c'est pas le quart d'heure de nous parler. Parce que ça va faire l'effet inverse. On va encore plus s'énerver. Ben, je ne dis pas que c'est bien. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut être réaliste. C'est comme cela que l'on est, en certains moments de la vie. Parce que vous savez, on est toujours prêt à se repentir quand on n'a pas trop besoin de se repentir, en fait. Parce qu'on est, bien avec le Seigneur. Alors on est bien disposé et on est très vite capable alors dans ces moments-là de se remettre en cause, de se repentir, voilà. Mais quand on n'est pas bien avec le Seigneur, c'est un cercle vicieux terrible. Parce que quand on n'est pas bien avec le Seigneur, on n'a pas envie de se repentir. On n'est pas bien disposé pour se repentir. Et là, que faut-il faire? Vous vous rappelez le prophète Jonas? Il n'était pas toujours bien disposé. On dira, c'est pas normal, le frère untel, c'est pas normal. Bon, ben écoutez, je pense qu'en fait, c'est normal qu'il y a plein de choses pas normales dans notre vie. Mais comment Dieu agit avec Jonas? Il est furieux. Il lui fait pousser un ricin, il lui donne de l'ombre. Il le calme. C'est beau ça? Il le calme. Il prend le temps. Bon, après, le ricin est séché. Et là, ça ne plaît pas à Jonas. Et puis, Dieu finit par lui parler. Je crois que... Et il y a des moments où on dit, si le silence, si la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est vrai, hein, parfois. L'esprit doux et paisible. Ah ben, c'est vrai dans tous les domaines, hein, l'épouse avec son mari, mais nous aussi avec quelqu'un d'autre. Au mal que tu me fais, au moment difficile dans lequel tu passes, moi, je répondrai par de la loyauté. Les gens ont besoin de nous quand ils vont pas bien. Ils n'ont pas forcément besoin de nous quand ils vont bien. Quand les gens ne vont pas bien, c'est peut-être là plus que jamais qu'il faut être doux avec eux. Et je vous assure que c'est ça qui nous permettra de les gagner, parce que c'est notre. Donc voilà quelques passages qui nous parlent de l'efficacité de la douceur. Amen. Donc, bien-aimés, ne cédez pas à l'impatience, parce que vous ne ferez pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu se fait dans la douceur. Alors voyons maintenant trois exemples de dureté. 2 Samuel, chapitre 19, verset 43. On va sauter au-dessus de cette référence. On va lire 1 Samuel 25, verset 3. 1 Samuel 25, verset 3. On n'aura que deux exemples. 1 Samuel 25, verset 3. « Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions, et pourtant, je rajoute, il descendait de Caleb. Et puis le verset 17, voilà ce qui est dit ici, le verset 17. « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Amen. » Voilà un homme qui n'était pas tout à fait doux, qui se caractérisait plutôt par une certaine dureté. Il était dur au point que les gens n'osaient pas l'aborder. C'est triste d'en arriver à ça. Hein? On peut penser que c'est bien, c'est qu'on a de la prestance, on a du charisme, on impressionne les autres. Les autres ne bougent pas quand on est dans la pièce. Oh, je trouve plutôt que ça manque de douceur. Le Seigneur qui était justement le Seigneur, eh bien, les gens venaient vers lui. C'est beau ça. Ils n'avaient pas peur de lui. Les gens avaient peur de Nabal. Ils avaient peur de lui. Est-ce que vous faites peur aux gens? Est-ce que vous vous protégez en faisant une tête de telle sorte que les gens ne vous embêteront pas? C'est dommage, parce que ce n'est pas chrétien d'être inabordable, d'être dur, au point peut-être d'être tranquille, mais en fait d'être inutile. Et ici, quand même, il avait fait un affront à David. David était en route. Il allait tuer tout le monde. Heureusement que sa femme a eu la bonne réaction et a empêché le désastre. Et c'est, tout cela s'est passé sans qu'il était conscient de rien, parce qu'on lui cachait tout. Tout s'est fait dans son dos, mais pas parce que les gens n'étaient pas loyaux avec lui, parce que le lendemain, sa femme lui dit tout. D'ailleurs, une belle leçon, ça. Mais parce que lui, ben, il s'isolait, en fait, dans son attitude de dureté. Alors que Dieu nous aide à avoir cette attitude qui ne fasse pas peur, mais qui favorise plutôt le partage. Le partage. Et puis, enfin, on ne va pas le lire parce qu'on le connaît bien, mais c'est la dureté de Roboam, le fils de Salomon. Israël est ployé sous les corvées et demandé un peu de soulagement. Et ce roi a écouté les jeunes de son âge et leur a répondu en gros, « Mon petit doigt, il est plus puissant que les reins de mon père. » Quand même. Hein? Les reins, c'est symbole, c'est le siège de la force dans la Bible. Donc, il dit que son petit doigt est plus fort que toute la force de son père, qui était Salomon, le plus grand roi, enfin, le roi dont le règne a été le plus prestigieux. Et il ose dire, mon petit doigt, il est plus fort que toute la force de Salomon. Vous savez ce qu'il en est arrivé? Ben, le schisme d'Israël, la division. Et après, pendant des siècles, le royaume d'Israël et de Juda ont été ennemis. Et ça s'est terminé en captivité. Tout ça parce que cet homme, à un moment donné, on lui demandait simplement d'être écouté. Et il avait cédé, il avait été doux. Mais ça venait de Dieu, tout cela. C'était un jugement. Être doux, c'est parfois céder. Être doux, c'est parfois savoir écouter. Et mettre de l'eau dans son vin. Alors, on va lire deux derniers textes, Tite chapitre 3, versets 1 à 8. Tite chapitre 3, versets 1 à 8. Tite chapitre 3, verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Encore le mot soumis, vous savez que dans la Bible, ce mot-là, sous la plume de Paul, et pas que de Paul, est pas mal employé. C'est un mot qu'on bannit un peu aujourd'hui de notre langage, et même dans l'Église, c'est pas souvent qu'on ait, par exemple, comme thème la soumission, en reprenant les textes de l'Écriture. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois égarés, asservis à désobéissants, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans la vie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais alors, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés. Pourquoi je conclue un peu avec ce passage? Parce que dans ce passage, il y a vraiment les deux vies. Celle d'avant le salut et celle depuis qu'on est sauvé. Celle d'avant le salut, c'est nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Dans la vie d'avant, on était dur avec les autres. Il n'y avait pas de pitié. C'était la loi de la jungle, la loi du plus fort. On détestait, on se détestait. Et combien il y a d'hypocrisie dans ce monde d'aujourd'hui. On se salue, ah ouais, on s'embrasse. On a l'impression qu'on est des amis depuis toujours. Mais viens, une difficulté. Et alors là, on se rend compte du vrai visage. Et nous étions comme cela. Mais la Bible dit, mais lorsque la bonté de Dieu, on a connu autre chose grâce à Dieu. On a connu la bonté de Dieu pour nous. Alors l'apôtre Paul dit, soyez plein de douceur envers tous les hommes. C'est un revirement total. Ça, c'est le fruit de la repentance. C'est avant d'être sauvé, on s'en fichait des autres, voire même, ça ne nous dérangeait pas de leur faire des sales coups. Mais maintenant, dans le Seigneur, nous voulons être gentils avec tout le monde. Gloire à Dieu. Ça, c'est une autre vie, celle de la bonté de Dieu. On termine avec Matthieu 11, 29, hein, qu'on connaît bien. C'est le Seigneur qui parle. Matthieu 11, 29. Où il est dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Le Seigneur a dit, je suis doux. Alléluia, je suis doux. Alors, vous serez d'accord avec moi que il était aussi ferme, courageux, et il ne se laissait pas faire. Quand les pharisiens venaient le piéger, ils retournaient le piège contre eux souvent. Il a su être ferme, mais il n'était pas dur. Ah, des fois, c'est tendancieux, hein, il n'y a qu'un cheveu. Quand je vous dis qu'on doit être doux envers tous les hommes, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments dans la vie où il faudra être ferme. Ça ne s'oppose pas, c'est pas où on est doux, où on est ferme. C'est on est doux et on est ferme quand il le faut. Il faut savoir adapter aux situations la bonne conduite. Quand je vous ai parlé d'être doux, je ne vous ai pas parlé d'être doucereux, mielleux, tout le temps. Le Seigneur Jésus était doux. Et quand il le fallait, il savait être ferme. Le premier texte que nous avons lu, la douceur de la sagesse. Si on continuait la lecture, il est dit de la sagesse qu'elle est exempte d'hypocrisie. Être doux, c'est pas être lâche et ne pas oser dire ce que l'on pense. Comprenez ? La douceur ne nous empêche pas d'être vrai. Au contraire. Je crois qu'il est bon de se dire ce que l'on pense, mais sans méchanceté. sans dureté, sans agressivité, avec douceur. Gloire à Dieu. Ça, c'est... La douceur n'annule pas la vérité. Amen. Voilà quelques réflexions sur ce sujet. Surtout, retenez que la douceur, elle est efficace et qu'elle est une preuve de notre nouvelle vie. Alors, je ne dis pas que nous avons tous, toujours vécu cette douceur, mais peut-être qu'un culte est aussi fait pour rappeler des choses que nous savons afin que le Seigneur les renouvelle dans notre cœur. Alléluia. Et en sa présence, il nous communique ce que sa parole nous dit. Son nom est béni. Alors passez une bonne semaine douce. Une douce semaine avec le Seigneur. Amen.